Bon, on accueille notre troisième auteur donc, pour cette rentrée de la fantasy, Adrien Thomas. Alors, Adrien, évidemment, vous avez tous lu La Geste du Sixième Royaume, évidemment, vous avez lu La Maison des Mages, évidemment, vous avez lu Notre-Dame des Loups. Enfin, je crois que c'est que ceux qui n'ont pas vu ces trois tomes aillent se suicider dans les toilettes tout de suite. Aujourd'hui, il arrive avec Le Royaume Rêvé, donc qui est un préquel.
C'est ça.
De La Geste. Est-ce que, pareil, même punition que tes petits camarades, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire et l'univers?
Ok. Alors, bon, je sais qu'il est 17h, que c'est l'heure généralement au lycée, au collège, on a plus envie de se barrer, on regarde son portable, où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est fini. Un petit effort de concentration, comme dirait ma prof de maths de l'époque. Ouais. Donc, Le Royaume Rêvé, c'est la préquelle de La Geste du Sixième Royaume. Elle se passe dans un univers médiéval fantastique où les royaumes humains entourent une grande forêt gigantesque qui abrite toutes les créatures les plus étranges du monde, les elfes, les nains, les dragons, les sylphides, les loups-garous, pas mal de bestioles un peu étranges, que je me suis amusé à dépeindre de manière différente que ce qui est traditionnellement accepté dans la fantasy. La gestion du royaume, ça raconte la grande bataille qui a lieu entre les habitants de la grande forêt et les royaumes qui tournent autour et qui n'ont qu'une envie, c'est la raser pour tracer des routes commerciales et se débarrasser d'un peu de tous ces mythes et légendes qui encombrent un peu l'esprit éclairé des hommes normaux qui doivent chercher le progrès. Le royaume rêvé se passe 1000 ans plus tôt, à l'époque où la grande forêt fait une fois et demie la taille qu'elle faisait à l'époque de la geste. Et à l'époque où les humains viennent à peine de conquérir leur indépendance, parce que jusqu'à présent, les humains étaient les esclaves des elfes. Ils ont fini par se rebeller, mettre la main sur la capacité à maîtriser la magie. Alors moi, j'assume complètement, dans mon monde, il y a la magie, des nains, des elfes, des créatures, tout ce que vous voulez. J'assume complètement, c'est ce qui me plaît dans la fantasy, j'aime beaucoup ça. La fantasy, il n'y a que des humains, il se passe que des trucs avec des humains. C'est pas trop mon domaine. Donc dès qu'il y a des boules de feu qui volent, des oreilles pendues, tout ça, c'est magnifique. Et donc du coup, Le Royaume Rêvé raconte l'histoire d'un petit royaume, enfin pseudo-royaume nordique, qui est divisé en plusieurs clans batailleurs, querelleurs, qui ne s'entendent pas du tout, et qui sont très très fiers, très très satisfaits de leur propre exclusivité, qui sont très renfermés. Et la princesse héritière d'un des clans réalise que si ça ne fait pas assez rapidement, s'ils n'arrivent pas à former un royaume un peu tous ensemble, ils vont se faire rayer de la carte assez facilement par les voisins d'à côté qui, eux, ont réussi à s'allier les uns avec les autres. Donc ça raconte comment la princesse italienne va prendre en otage différents princes des clans d'à côté, les forcer à bosser ensemble et essayer à ce que la jeune génération mette sur pied le royaume rêvé, un royaume juste, équitable, correctement défendu, qui puisse se permettre d'exister dans le nouveau monde qui vient à peine d'être créé suite à la chute des elfes.
Un royaume donc juste, équitable, de fantasy.
Ils vont essayer, on va dire, selon leur point de vue, selon leur vision des choses, ils vont essayer d'en faire quelque chose de juste, équitable et de qui permette à leur culture, à leur peuple de vivre en harmonie et de ne pas finir esclave des royaumes d'à côté.
Ce qui t'intéressait, c'était la manière dont on crée un royaume comme ça, et politiquement, et guerrièrement, c'est pas terrible, mais par les armes.
Oui, je voulais essayer de voir un peu les différents. Enfin, je vais plutôt par les stratégies, en fait, stratégies dans tous les sens du terme, donc les stratégies politiques de manipulation, de prise de pouvoir, de capacité, de ou autre, et simplement de la manipulation du peuple ou de l'amour que le peuple peut avoir pour ses héros, pour ses dirigeants, le respect ou la crainte de tel ou tel personnage, de tel ou tel peuple. Utiliser la magie pour arriver à ses fins, utiliser la tromperie ou les armes, ou la diplomatie, ou beaucoup, enfin toutes les manières possibles qui sont utilisables et exploitables pour arriver à un résultat, arriver à quelque chose de correct à la fin.
Comment tu l'as conçu ton histoire? Parce que justement, là on est sur la création d'un royaume, donc il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre de batailles, il y a un certain nombre de revirements. Comment est-ce que tu as fait justement pour aboutir jusqu'à ce royaume?
Alors si on me demande si j'ai un plan, j'en ai pas. Je suis un peu chaotique dans là, c'est-à-dire que je vais chercher, je pars d'un point de départ avec mes personnages et j'ai plus ou moins un but à atteindre et puis j'y vais comme ça à l'arrache jusqu'à réussir à quelque chose qui tient debout. C'est pas aussi, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. J'ai quand même défini avant ça les différentes étapes, les différents jalons qu'il fallait que j'atteigne à chaque fois, avec tel ou tel personnage qui va être responsable de l'accès ou de la conquête de tel élément important du royaume, ou le fait qu'au contraire qu'il va se poser un problème qui va poser un obstacle à l'élaboration du royaume. Et le but, c'est d'arriver à quelque chose en passant outre les obstacles.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes héros, sur tes personnages? Qui sont-ils et que font-ils un petit peu? Quelle est leur personnalité?
Alors, le personnage auquel le plus de gens s'identifient, qui est probablement aussi le plus développé dans ce tome-là, c'est Vermine. Donc, c'est une sorcière sauvage qui a été en gros élevée dans la forêt par personne, en fait. mais qui maîtrise un pouvoir assez particulier, qui est une sorte de pouvoir magique ténébreux et qui lui permet de faire pourrir les choses, de créer des maladies, de créer des infections. Et en plus de ça, il fait parler. Donc qui est une sorte de pouvoir ténébreux qui est coincé au fond de sa poitrine et qui lui parle dans sa tête. Elle parle avec un avantage au niveau psychologique, non? Qui va être capturé par le messager royal d'Itaël, donc la princesse qui va réaliser qu'il faut créer le royaume rêvé, va envoyer un messager à ses trousses pour la capturer et la ramener pour servir d'épine. Donc les épines de la reine, c'est un ordre de jeunes gens qui ont tous des capacités particulières, que ce soit martiales, diplomatiques, magiques, etc., scientifiques, dont elle va s'entourer pour plus ou moins former la nouvelle génération. On va prendre des jeunes issus de tous les clans possibles et imaginables, y compris des princes otages, et ils vont tous graviter autour d'elle et lui servir d'agent pour accomplir son but. On trouve donc, en plus de Vermine, qui est le seul personnage non noble, il y a le prince Izemir, qui est un jeune guerrier, beau gosse, un peu arrogant, un peu peut-être dur, un peu râleur. Le prince Soleim, qui est un peu discret dans ce premier tome, qui va prendre un peu plus d'importance par la suite, qui est le prince nécromancien, qui vient d'un royaume nordique, d'un clan nordique dont personne ne s'approche parce que voilà, il y a des nécromanciens, donc généralement ils font demi-tour. Qui sont à la fois des guérisseurs et des sorciers relativement puissants, mais qui maintiennent leur indépendance. Il y a la princesse Mérisia, qui est plutôt la grande gueule marrante de la bande, qui est une fille qui est très intéressée par l'apothicairie, le tir à l'arc, qui étudie auprès du seul nain du royaume, donc un apothicaire qui lui apprend les ficelles de la concoction des poisons, des antidotes. Et je crois que j'ai évidemment la princesse Itaël, qui est dans l'intégralité du roman, n'a pas voix au château, n'a pas la parole, c'est-à-dire qu'en gros elle n'est que vue par les différents personnages, par ses épines en fait, par ses personnages et tout.
Il y a une notion de quête, du coup.
Oui, il y a un objectif qui est la fondation du royaume rêvé, donc qui est du coup de permettre d'atteindre différents objectifs au fur et à mesure de la quête.
Dans cette quête, tu as dit à plusieurs personnages, comment est-ce que tu régis un petit peu les relations entre eux?
Relativement mauvaise à la base. Vermine a son caractère, clairement. Elle est difficile à accepter parce qu'elle commence son entrée en royaume rêvé en tant qu'esclave. Et c'est aussi une esclave qui n'a pas vraiment la langue dans sa poche et qui a tendance à notamment entrer très facilement en conflit avec le prince Izmir. Il ne l'aime pas trop et c'est très très réciproque. Mérisia est un peu celle qui essaie d'apaiser un peu les choses par l'humour, et Soleil qui essaie d'apaiser les choses par la sagesse. Mais lui, il est très peu présent, il a tendance à être un peu éthéré, à se balader un peu plus dans l'étude de la magie et les différentes traditions très lourdes qui lui imposent son statut nécromancien. Et généralement, Itaël est aussi celle qui est centrale encore. C'est elle qui pousse les personnages à lui venir en aide. Et qui finalement réclame, et c'est aussi celle qui a le plus besoin d'aide à un niveau personnel.
Comment tu gères un petit peu les relations dans un groupe comme ça? Tu as plusieurs personnages, ils sont nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu te dis, tiens, il y a un personnage qui est un peu plus en retrait, il faut qu'il revienne un petit peu dans la vie du groupe, je suis en train de l'oublier, est-ce que celui-là, il est en train de prendre un peu plus le pas vers les autres? Comment est-ce qu'en tant qu'auteur, tu gères une colonie comme ça?
Alors, l'objectif, c'est qu'ils apparaissent plus ou moins de manière équitable pour qu'on ne les oublie pas. Alors, il m'arrive effectivement de les oublier. Il y a aussi certains moments où l'histoire impose que certains personnages s'éloignent des autres. Donc, ils sont difficiles, ils sont plus perçus par les autres. Et que je fonctionne comme je fais habituellement avec un chapitre par personnage et chaque personnage parle de son propre point de vue. Si le personnage est loin, il n'y a plus personne pour le voir. Et s'il n'y a plus personne pour le voir, du coup, on oublie un petit peu. Donc j'essaie de gérer les choses en faisant en sorte qu'ils se voient toujours les uns les autres et surtout en alternant les points de vue, c'est-à-dire que quand tel personnage considère que l'autre est un enfoiré de première et qu'il mériterait de crever au bord d'un fossé, généralement dans les chapitres qui suivent, je donne le point de vue de ce personnage pour qu'il puisse donner également sa version de l'histoire et que ce soit l'auteur de trancher plus ou moins. Et le but, c'est d'avoir des relations varier en fait, parce que s'ils sont tous potes et qu'ils vont tous à l'aventure, pour éviter qu'ils vont tous ensemble, c'est pas très intéressant.
Ils sont plutôt jeunes, est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'apprentissage?
Alors, c'est oui et non, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte d'avoir des personnages qui sont jeunes, voire très jeunes, qui ont tous entre 14 et 18 ans, on va dire. Mais je voulais pas qu'ils soient traités comme des jeunes apprentis élus par les dieux qui vont aller sauver le monde, comme c'est parfois la norme en fantasy. Je voulais qu'ils aient des comportements adultes et qu'ils se retrouvent face à des problèmes d'adultes. Je voulais plus ou moins parler d'enfants, d'adolescents grandis trop vite en fait. Qu'on force à grandir vite parce que à 16 ans, t'es un homme, t'es censé savoir tenir une épée et diriger un groupe de soldats. À 16 ans, t'es une femme et t'es censé savoir pratiquer la magie ou tirer à l'arc et te défendre et t'es censé savoir tout faire. Et tu es censé pouvoir faire face à n'importe quel élément parfois difficile que tu peux rencontrer dans ta vie d'adulte dès tes 15 ans. Parce que dans cet univers-là, les enfants ne sont pas protégés, ne sont pas mis à l'écart des problèmes de société, des problèmes d'adultes. Donc c'est à la fois un roman d'apprentissage, un apprentissage difficile, brutal de la vie d'adulte, pas l'apprentissage tranquille sous la houlette d'un gentil mage à la barbe blanche.
Tu le disais, j'aurais qu'on parle de l'univers maintenant, parce que du coup, tu te dis, c'est un préquel, 1000 ans avant la geste. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de méta-histoire qui se met en place autour de ton univers?
Oui, l'objectif, c'était l'objectif. Selon ce que je voulais faire, à la base, c'est ce que j'avais prévu une méta-histoire, en plusieurs plein bouquins, en fait. La geste, qui était plus ou moins le point central, qui expliquait la mythologie principale de cet univers-là. La Maison des Mages qui exploitait une mythologie un peu plus tardive, qui permettait d'intégrer les mages, les pratiquants de la magie qui utilisaient la magie différemment de ce qui se faisait avant. L'après-quelle du Royaume Rêvé et les tomes suivants me servira à présenter le début de l'histoire. Et petit à petit, alors je ne sais pas si c'est encore très évident, mais les vrais personnages de la méta-histoire ne sont pas ceux auxquels on que pas ceux qu'on croit, ce sont des personnages qui sont secondaires mais qui apparaissent quand même dans quasiment tous les tomes et qui vont me permettre de concentrer probablement la toute dernière partie de l'histoire. J'envisage de faire 5 incursions dans cet univers là et la cinquième mettra vraiment en avant qui sont les vrais personnages principaux et ce sera sur eux que ça se termine.
Nathalie, il y en aura encore 5 à publier.
Non, 5 au total, en comptant ceux qui sont déjà sortis.
Ah ouais, d'accord. c'est une méta-histoire que tu construis au fur et à mesure dans ton imaginaire où les choses sont vraiment posées et tu mets les histoires dedans. Est-ce que c'est les histoires qui apportent quelque chose ou est-ce que c'est déjà calé dans ton esprit?
C'est un peu les deux, c'est déjà calé en fait. C'est déjà calé quels seront les personnages qui pourraient apparaître dans les tomes suivants, quelles sont les histoires que je vais exploiter et qu'est-ce que je vais mettre en place. Parce qu'en gros, chaque bouquin me permet d'établir comment fonctionne un aspect, une règle, un peuple, quelque chose d'important pour la construction de l'histoire. Et à partir du moment où on a ces prérequis-là, ça me permettra d'arriver à la fin avec tout déjà prêt, d'avoir posé toutes les bases pour la dernière histoire.
D'accord. La geste, c'était 2011. de Dieu déjà. Tu as évolué en tant qu'auteur, quel regard tu as sur la geste et comment est-ce que tu as senti les choses évoluer, que ce soit dans l'histoire ou dans l'écriture ou dans les personnages? Es-tu le même auteur qu'en 2011?
Non, j'ai moins de cheveux.
Pourtant, il en a. Hein.
Mais j'ai les cheveux noirs. Je
connais d'autres auteurs dans la salle.
Non, je pense que j'ai évolué quand même sur. Déjà, j'ai appris à écrire sur commande. C'est-à-dire que la geste, j'ai pris tout mon temps, j'y suis allé en mode. Je fais ce que je veux. Hein, j'écrivais pour moi, je n'avais même pas vraiment dans la tête l'idée de publier. Une fois que c'est publié, on a commencé à me faire les gros yeux en me disant il faut quand même que tu publies de temps en temps quand même. Donc je me dis bon, j'accélère un peu mon rythme. Donc j'ai appris à écrire peut-être un peu plus vite, plus efficacement. Et puis la première relecture que j'ai faite avec Mémos sur la geste m'a aussi donné pas mal de pistes d'amélioration sur mon écriture. Sur la geste, un gros pavé où je me suis amusé à partir où je voulais en fait. C'était le but, je faisais un peu ce que je voulais. Et ils m'ont quand même donné des bonnes pistes en me disant attention, parce que là tu pars sur le truc, est-ce que ça sert vraiment ton histoire? Non, du coup on va le virer. Sinon ça ne fait pas genre. Hein. Et ça m'a appris aussi, ça m'a permis d'être parfois plus efficace, d'un peu moins rêveur dans l'élaboration de mon histoire aussi, parce que j'ai tendance à partir un peu où je voulais en me disant que ça servira bien un jour. Bon, des fois non. Et la maison d'image est du coup, à mon sens, peut-être un peu moins profonde, mais aussi un peu plus percutante que la geste. Dans le sens où la geste, je me suis vraiment. J'en ai profité pour poser pas mal de questionnements, pas mal de questions plus ou moins philosophiques ou sociétales qui m'interrogeaient, que j'ai envie de mettre en avant, de mes réflexions là-dessus. La maison des images est un peu plus. Il y en a toujours, mais c'est un peu plus efficace, dans le sens c'est plus aventureux et le royaume rêvé, j'essaie de faire un équilibre entre les deux. C'est une sorte, à la fois il y a de l'action, il se passe des choses, c'est divertissant, et d'un autre côté, j'essaie de faire réfléchir sur d'autres sujets, on va dire. Donc j'essaie d'essayer de retrouver mes origines tout en acceptant le fait que j'ai évolué tant qu'autant.
Une petite question, ça fait 5 ans donc, que tu fais des salons, que tu rencontres des lecteurs, que tu discutes avec des lecteurs, ça fait 5 ans aussi que tu côtoies d'autres auteurs, que tu discutes avec eux, ou que tu entends Isabelle ou Chloé. Est-ce que tout ça t'influence? Est-ce que ça te fait changer des choses?
Alors ça m'arrive en écoutant certains auteurs parler en disant on fait pas assez ci, on fait pas assez ça, on fait trop ci, on fait trop ça, de prendre conscience de clichés, de prendre conscience de contraire de choses qui sont très peu faites et qui du coup auraient un intérêt d'être mises en avant. Ça fait prendre aussi conscience parfois de certains de mes défauts, en lisant des chroniques par exemple sur certains de mes romans, pas tout le monde. Mais certaines chroniques qui sont plus ou moins bien écrites ou qui me permettent de mettre en avant, tiens, ça n'a pas pu être le lecteur, est-ce que ça m'intéresse ou pas déjà? Si c'est un lecteur qui n'a pas du tout compris ce que je voulais faire, est-ce que je veux vraiment changer ma manière d'écrire pour lui convenir à lui? C'est assez rare. Par contre, un lecteur qui a globalement compris ce que je voulais faire, qui a analysé, qui a bien compris, mais qui met en avant un point qui l'a gêné, je me dis, je vais peut-être plus y réfléchir, plus me dire, ah ouais, effectivement. Et donc autant les lecteurs, les éditeurs, les auteurs, les discussions qu'on a, les discussions sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, sur ce qui donne envie, ce qui ne donne pas envie, sur la manière d'écrire, la manière de raconter, ça permet de révoluer. Il y a une sorte d'émulation générale, collective, entre tous les différents acteurs de la fantasy. Pour écrire mieux, je pense, j'espère.
Retour donc au bouquin, ça c'est le premier tome. Est-ce qu'on peut dire un petit peu du deuxième?
Petit, voilà. Sans spoiler, bon là je suis à peu près, j'ai dépassé la moitié de la rédaction du deuxième tome. Ça reprend entre 6 mois et 1 an après la fin du Royaume Rêvé. Donc le Royaume Rêvé est en bonne voie, on va dire, enfin, plus ou moins, il y a eu quelques sacrifices récents, quelques petits problèmes. Et on commence les phases de préparation et du fait qu'à partir du moment où on commence à ressembler à un royaume, le royaume a aussi des droits et des devoirs. Et c'est bien joli de rassembler des clans qui se tapent sur la gueule pendant des mois et des mois, mais une fois que c'est fait, il va falloir commencer à prendre contact avec les voisins, enfin, prévoir des missions diplomatiques, créer vraiment une armée régulière. En gros, c'est des nouveaux défis pour, une fois que le royaume est rassemblé, vous savez bien, vous avez obtenu l'union, mais une fois que l'union est obtenue, il va falloir s'y mettre quand même, parce que c'est pas fini, on est loin de la fin. Et de voir que la menace qui plane sur le royaume rêvé, prend elle aussi de l'ampleur, que ceux d'en face ils allument aussi leur bille et que en fait il y a pas mal d'éléments à prendre en compte avant que ça explose vraiment.
Ouais, c'est chouette parce qu'on a encore une fantasy qui pose plein de questions. On disait toujours la fantasy, une littérature un peu passéiste, figée. On voit avec Isabelle, avec Louis ou avec toi, en fait, ça pose plein de questions politiques, économiques, etc. C'est plutôt mal. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Adrien ?
Oui. Alors, si on commence par celui-là avant d'avoir les autres, ça gêne ou non ?
Alors, c'est conçu pour que cette puisse normalement être lu dans l'ordre qu'on veut. Alors là, par contre, c'est le Royaume rêvé, ça va être en trois tomes, donc commencez par le premier. Mais, voilà. Mais sinon, normalement, on avait déjà posé la question pour la Maison des Mages et la Geste, et certains ont commencé par la Maison des Mages sans perdre grand-chose à l'histoire. Et je pense que pour le Royaume rêvé, ça peut être une bonne introduction à l'univers sans perdre non plus. Il y a quelques références qui ne seront pas forcément comprises au premier coup d'œil si on n'a pas lu la Geste ou la Maison des Mages avant, mais rien qui empêche la compréhension de l'histoire. Donc, ce sera des références qui sont comprises à posteriori, c'est parfait, là, je pense.
Y a-t-il une autre question ?
Oui. La description de ton royaume rêvé m'a beaucoup fait penser à Valmont, à Arthur, à Camelot. Est-ce que ça fait partie des inspirations, la légende arthurienne ou...
Alors, j'avais pas pensé, mais oui. Je pense que c'est plus inconscient que autre chose, mais effectivement, j'avais pas pensé que ça ressemblait beaucoup effectivement, à des chevaliers de la Table Ronde. C'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des...
C'était plus sur l'utopie, justement.
Oui, le titre l'indique, c'est le but, c'est de créer une utopie, de montrer que c'est pas si facile que ça de créer une utopie. Et effectivement, ça ressemble pas mal à Arthur et au fait que ce soit une personnalité royale fédératrice qui va essayer de rassembler autour de lui des gens aussi bien issus de la noblesse que du peuple et qui vont essayer de construire quelque chose ensemble, malgré le poids des traditions, malgré les ennemis qui pressent, etc. Donc, oui, j'avais pas vraiment pensé, mais oui, il y a pas mal de liens entre les deux.
Une autre question. Une fois, deux fois, trois fois. On va remercier Adrien. Je vous remercie.